Bonjour et bienvenue dans l'émission de cette semaine de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père. Okay. On est bien arrivé. Et on est le combien aujourd'hui, dis donc ? On est le
19 ou le 20, non ?
Oui, c'est ça. Bon, voilà, on est mardi 19 ou mardi 20, donc merci de nous suivre. On est censé être réveillé, il est quand même 11h du matin, mais voilà. On est le 23.
On est le 23, voilà. Ben voilà, voilà.
Et ben voilà. Donc,
voyez, c'est pour vous dire que le temps passe lentement ici.
Plus qu'à 7 jours de la paye, tu vois.
Exactement.
Et il y en a qui ne s'en rendent même pas compte et qui dorment le ventre plein de croquettes. Bon, aujourd'hui, on vous a convoqué pour parler un petit peu de ce qui se passe sur le marché des actions. Parce que vous savez que Charles a, dans sa grande carrière, eu l'habitude de comparer la volatilité, l'efficacité de certains produits. Et l'or est une sorte de référence. Je crois que beaucoup d'entre vous font ça, parce que c'est une façon de se dire, tiens, est-ce que le marché est plus rentable que l'or, moins rentable ? Ça apporte évidemment une sécurité dans ce que vous avez analysé comme étant un actif antifragile que peut être l'or. Et aujourd'hui, à l'étude, il semblerait qu'une certaine volatilité arrive sur le marché, en tout cas des mouvements qui commencent à sentir un petit peu le renard, crois qu'on peut dire ça. Et donc c'est pour cela que vous êtes convoqué aujourd'hui, pour essayer de réfléchir à ce qui se passe sur l'énergie, l'or, le marché des actions. Et on va essayer de faire donc le premier comparatif sur une base 100, de 1973, donc ça c'est le premier graphique que tu vas introduire.
Voilà, alors c'est ce graphique qui va maintenant apparaître sur vos écrans, du moins je l'espère. Et alors l'idée est assez simple, c'est que, comme vous le savez, l'économie c'est de l'énergie transformée. Donc, vous mettez de l'énergie d'un côté, comme ça, ça rentre, puis vous faites des tas de bidules au milieu, puis après ça, ça sort en produits et en services qui sont vendus. Bon. Si tu acceptes cette idée, il doit y avoir une espèce de relation à long terme entre l'économie, le coût de l'énergie, et grosso modo, la rentabilité de cette énergie que tu as mis dans le système. Et cette rentabilité, elle est mesurée par le marché des actions. Donc logiquement, si le système est en équilibre, la performance du marché des actions hors paiement des dividendes, mais juste la mesure, quoi, et le cours de l'énergie devrait se revenir l'un sur l'autre de temps en temps. De temps en temps, il y en a un qui est plus haut que l'autre, de temps en temps, il y a l'autre qui est plus élevé. Bon, ça, c'est la première des choses. Donc, logiquement, l'énergie et le marché des actions devraient se retrouver de temps en temps, comme ça, une fois tous les 5 ans ou tous les 10 ans, mais ça revient toujours à la moyenne. Donc ça, c'est l'énergie que tu mesures en achetant le pétrole aujourd'hui. Mm-hmm. Mais comme tu sais que l'énergie est quelque chose de très volatile, ça, en général, ça fait rien pendant 10 ans, puis pendant 3 ans, ça multiplie par 4, quoi, tu vois. Donc, il faut que tu aies une espèce de réserve d'énergie. Et l'embêtant, c'est que comme tu sais, l'énergie, ça ne se stocke pas. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que les marchés, dans leur infinie sagesse, ont décidé ? Ben, que l'or serait, dans le fond, une réserve d'énergie. C'est l'épargne des générations précédentes qui est en or. Et puis, si d'un coup, cette génération a besoin d'énergie à tout prix, ben, tu peux vendre ton or et acheter de l'énergie. Donc, il doit y avoir aussi une relation donc, entre le prix de l'or, le prix de l'énergie et les marchés. Tu vois, quelque part, ils doivent se croiser de temps en temps. Mm-hmm. Tu vois, donc l'idée, c'est que dans le fond, l'énergie, la valeur de la production et le stock d'énergie du passé qui était ça doit aller à peu près ensemble.
D'accord.
Bon, alors c'est ce que je montre sur le premier graphique, où je mets tout bas 100 en 1972-73, parce que c'est le moment où l'or a commencé à flotter librement, tu sais, mm-hmm. C'est-à-dire avant ça, il était bloqué. Et donc, tu vois que de 1972 à 1980, l'or, l'énergie du passé et l'énergie d'aujourd'hui, le prix du pétrole, multiplie par 11. Paf. Ben, tu te rends compte que c'est pas quelque chose que les sociétés vont accepter de bon cœur. Et donc, le prix des actions passe de 100... Tu sais, passe de 100, il perd 50%, lui, facile.
Tout à fait, oui.
Et le ratio entre le cours de l'or, ratio entre le S&P et le cours de l'or, qui apparaît en bas, lui, il perd 90%.
Oui.
te rends compte de la gamelle que tu prends sur le marché des actions à ce moment-là. C'est-à-dire que...
Gros stress.
C'était quand j'ai commencé ma carrière. Alors, c'était...
Je me souviens, il y avait des grands articles de Newsweek.
Disant que c'est la fin du marché des actions, etc.
Oui, c'est ça. Avec c'est la fin du monde. Et il y a un bain de sang.
Il y a eu une la baisse en termes réels était plus forte que de 1929 à 1934. Donc c'était quelque chose d'inouï, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez la ligne bleue et la ligne noire. La ligne noire, c'est le prix du pétrole. Le prix du pétrole commence à baisser, s'effondre en 85 parce que le cartel de l'OPEP se pète la gueule.
Bien sûr.
Et l'or suit d'ailleurs, les deux, vous voyez, comme ils suivent bien les deux là.
Mm-hmm.
Et bien, qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'énergie qui baisse? Le marché des actions, il se met à remonter avec bonheur.
Mm-hmm.
Et donc, de 1980 à 2000. Tu perds à peu près 50% sur le pétrole et sur l'or, et les actions, elles multiplient par 24. C'est ce qu'on appelle un bull market. Mm-hmm. Tu vois, c'était le bull market du siècle, ce truc.
Oui, alors, on est sur le ratio S&P, avec beaucoup de sociétés qui, à l'époque, sont basées aux États-Unis. Il y a aussi eu les formidables... injonctions économiques qu'ont pu être l'époque Volcker, justement, avec des taux qui avaient été remontés.
Mais là, c'est en 80, c'est le moment où Volcker dit, bon, parce que tout le monde pensait que le prix du pétrole allait continuer à monter jusque toujours. Et donc, Volcker a fait monter les taux à 15% en 1980.
Voilà.
Et justement, pour casser
l'inflation.
L'inflation, et donc casser l'or et le pétrole. Et de redonner une chance aux sociétés.
Eh bien, ça a très bien marché. Comme quoi, quand un banquier central
fait son boulot
et ne fait pas de mesures complètement idiotes...
On n'a pas besoin d'or.
Et quand un gouvernement décide de mettre à sa tête un banquier central qui fait son boulot, on n'a pas besoin de QE, de quantitative easing.
Mais rien du tout.
On n'a pas besoin des gros doigts de l'État.
Bien sûr. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que pendant cette période où les taux d'intérêt étaient élevés, le chômage a baissé, le déficit budgétaire a baissé, etc. Tout a marché très très bien. Et donc Volcker est remplacé par un autre homme qui s'appelait Greenspan, qui était aussi un très bon professionnel, qui maintient un taux d'intérêt élevé. Bon, très bien. Et ça marche très bien. Puis arrive un crétin profond qui s'appelait Bernanke, c'était vers 2004-2005, qui décide qu'il faut commencer à manipuler les taux d'intérêt et les taux de change, parce que lui, il sait mieux. Et hop, on part en sens inverse.
C'est fou le nombre de crétins en politique et en économie qui pensent qu'ils savent mieux.
C'est
assez extraordinaire. C'est-à-dire, cette façon de se dire, de se réveiller un matin, un gamin qui a 32, 33 ans, et qui a fait quoi, 3 ans dans la vie active, le reste dans un parti politique, et qui se dit, tiens, moi, je vais être un État stratège, et je vais être
un banquier central. Et je vais demander au banquier central de m'imprimer de l'argent pour pouvoir développer mes idées stratégiques.
Parce que du haut de mes 33 balais, encore une fois, et de ma force expérience, je sais exactement ce qu'il faut faire parce que je l'ai lu dans un bouquin HEC. Si tu veux que les gens disent, oui, mais alors vous qui avez 50 ans de marché, comment pouvez-vous arrêter de vous prendre pour un grand gourou?
C'est-à-dire, c'est pas que je me prends pour un grand gourou, c'est pas ça. Je dis simplement, le résultat de décisions qui sont prises de façon compétitive par 1 million de personnes sera sans doute meilleur que le parce que ces gars-là, ils jouent à chaque fois leur intérêt, leur peau, ils have a skin in the game. Ils jouent leur peau à chaque fois. Ça sera sans doute meilleur que le résultat d'un gars qui est tout seul. Et donc la décision d'un seul, c'est pas la décision de millions qui se contrebalance. Et donc on voit très bien à ce moment-là ce qui se passe. À partir du moment où le prix du pétrole se remet à monter, ben l'action se met à baisser. Et ce qui est très étonnant, c'est que si tu regardes le marché des actions de New York, dont on t'explique qu'il a fait une hausse exceptionnelle depuis 20 ans, que c'est les résultats de la politique monétaire, tu vois, on était à 246 au plus haut en 2000.
Mmh, là.
Et aujourd'hui, après 20 ans de remarquable politique monétaire, on est à 117. C'est-à-dire que dans le fond, aujourd'hui, la bourse de New York vis-à-vis de l'or est au même niveau qu'en 72.
Alors, qu'est-ce que ça promet pour... Alors, deux choses. Un, tout le monde dit en ce moment, oh, c'est incroyable, le marché des actions surperforme.
Bah, il a pas, ça fait à peu près 20 ans qu'il sous-performe l'or.
Bon, donc...
Donc
bon.
Ça veut dire que les marchés sont en train de dire toutes vos manipulations monétaires, ça ne crée pas de vraie valeur.
Alors ça, on le savait depuis Cantillon, quand même, que ça ne crée pas de richesse, les manipulations monétaires.
Mais par contre,
eux, ils ne savaient pas, encore une fois, on est avec des mecs de 33 ans qui ont essayé, qu'ils avaient découvert la roue.
Le 33 ans qui ne savent rien, qui disent des bêtises parce qu'ils sont des hommes politiques, ça ne me gêne pas. Mais que des hommes... qui ont un PhD en économie, etc.
Qui sont banquiers centraux, croient
qu'ils vont améliorer la chose.
Je pense pas qu'ils croient, je pense que simplement ils sont soumis aux politiques. Pour les petits hommes gris, parce que c'est devenu la gestion par les petits hommes gris.
Les petits hommes gris, exactement, mais. Alors, je vois très bien que, par exemple, cette politique à la noix a fait la fortune de Goldman Sachs, de JP Morgan et de Morgan Stanley, parce que eux, ils étaient près de la Banque Centrale. Donc, ils ont acheté des actifs réels avec de la fausse monnaie.
Et de Monsieur Arnault et ainsi de suite. Voilà, c'est toujours pareil.
Mais ils sont pas responsables.
Non, ils ne sont pas responsables, mais enfin.
Ceux qui étaient, la Fed avait tombé sous le contrôle de ces grandes banques d'affaires. Sous les années Clinton, et depuis, ça a été un désastre.
Oui, et dans quelle mesure...
Toute l'accumulation de la dette ne se ferait pas si l'État devait emprunter à un vrai prix.
Et dans quelle mesure M. Arnault n'était pas autour de table, qui a fait lire M. Macron, qui
c'est
est quand
possible.
Même un produit... C'est possible, alors là,
La nouvelle aujourd'hui, c'est quand même la nouvelle qui est en page 2, c'est que pour l'une des choses que je regarde avec beaucoup de soin... C'est en page 2, vous faites le ratio entre le S&P et l'or. Et donc, c'est la ligne bleue. Et la ligne rouge, c'est la moyenne mobile à 5 ans. Bon, c'est une façon de mesurer la tendance. Hein. Et vous voyez que de 1972 à 1982-83, les actions ont fait beaucoup moins bien que l'or. Mais Volcker est arrivé en 78. Il a commencé à monter les prix, les taux en 80. Donc tu vois, tu rates, si tu suis un truc, tu rates la première partie de la hausse, où tu passes de 6 ou 7 à 12. Et puis quand tu casses, tu te dis, bon, mais c'est bien, on est revenu. Et à ce moment-là, tu restes dans le marché jusqu'à 2001-2002. Mais tu as fait, tu es passé de 12 à 160. Tu vois, c'est bien, Bon, ensuite, on a une baisse profonde du marché contre l'or, quand ce crétin de Bernanke arrive, puis il est remplacé par Yellen, qui est un autre désastre, puis par le Powell, qui est un autre désastre, ce sont des incompétents. Et on voit quand même que, à part pendant la crise du Covid, la ligne bleue, à partir de 2012-2013, reste au-dessus de la ligne rouge. Tu vois, il y a une petite cassure, là. Mais la semaine dernière, on est passé en dessous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, depuis 5 ans, malgré toutes les manœuvres, l'impression d'argent, etc., ça veut dire que la rentabilité du capital investi aux États-Unis dans des activités efficaces, que j'appelle les valeurs d'efficacité, a fait moins bien que la valeur de rareté qu'est l'or. Ça veut dire que la rentabilité du capital est en train de tomber.
Et alors, évidemment, quand les gens n'étant pas plus bêtes que mal habillés, au bout d'un moment, s'ils disent « si je dois prendre des risques »,
Tu prends le risque de l'efficacité, depuis 5 ans, tu n'as pas gagné d'argent.
Donc à un moment, tu vas dire, je vais prendre...
Je vais me foutre en or et je vais attendre.
Je vais aller faire des plantes dans mon jardin, élever mes enfants, faire du potiron. Et quand vous aurez fini vos âneries, vous me passez un texto.
Je vendrai mon or. Donc ça veut dire que la réussite du capitalisme, comme je me tue à le dire, c'est qu'ils ont réussi à transformer une valeur de rareté en valeur d'efficacité, par l'intermédiaire du droit de propriété et des marchés financiers.
Alors après, là, c'est parce que tu regardes le S&P, c'est-à-dire...
L'Europe a déjà cassé beaucoup plus longtemps.
L'Europe, évidemment, a déjà cassé. Mais si on devait regarder probablement en direction de l'Asie...
L'Asie, elle est en train de... Elle n'est pas terrible parce que... elle n'est pas terrible.
Elle
a cassé aussi.
Parce que tu étais un peu plus bullish sur le yen.
Sur le yen, le yen, il est lui... Alors, tu devrais regarder le cours de l'or en yen, parce que le cours de l'or en yen, il est passé au travers du toit.
Ah oui.
Et donc, ce que je dis aux gens aujourd'hui, c'est qu'il va sans doute...
falloir sortir.
Sortir un petit peu d'or, peut-être en tout cas des actions, et se mettre en yen, parce que c'est un de ces quatre, le yen va remonter, Et à ce moment-là, leur yen baissera, quoi.
Il faut qu'ils remontent beaucoup pour qu'on ne perde pas à nouveau sur le transfert de change comme l'été dernier.
Comme voilà, ben c'est passé en même temps.
Parce que l'été dernier, on n'avait rien gagné. Hein.
On n'a rien gagné, mais en même temps, on se retrouve. Mais par la bourse de Tokyo est passée à travers du toit.
Les actions. Quand tu t'avais de l'euro et que tu le mettais face au yen, à la fin, tu n'as pas gagné.
Mais je ne l'ai pas recommandé jusqu'à maintenant.
Oui, dans le portefeuille.
Dans le portefeuille, je ne l'ai pas recommandé, mais maintenant, je vais le mettre. Et alors, venons-en donc à notre portefeuille, notre cher portefeuille idéal. Bon, il y a probablement une petite erreur, mais ça ne change pas grand-chose. La ligne bleue n'est pas tout à fait exacte.
Oui, merci à l'auditeur qui a repéré ça.
Le prochain graphique, celui qu'on vous mettra sur l'écran, ça sera le bon.
Charles est parfois un petit peu tête en l'air, et avec ses gros doigts, parfois,
De temps en temps, vous savez...
Il me fait ça le dimanche soir, alors.
Il y a des moments où, en effet... Donc, grosso modo, celui qui a investi 100 dans le portefeuille idéal en 2000, aujourd'hui, il est à 154... Et le marché français, l'indice français, dividende réinvesti, comme pour le portefeuille, il est à 144. Donc, on a mis 10 points à l'indice. Donc, j'ai calculé, ça vous fait l'indice idéal, la ligne rouge, vous voyez à quel point elle bouge peu pendant que les autres vont dans tous les sens. Hein.
Qui est, encore une fois, l'idée de ce portefeuille. Parce que, quelquefois, sur les réseaux, les gens disent « Ah oui, mais moi, je préfère vendre ci, acheter ça. » Encore une fois, l'idée de ce portefeuille est d'être un portefeuille de bon père de famille, comme autrefois dans le Code civil.
Et sur lequel il y a tout sauf du trading.
Voilà, et il y a tout sauf du trading. L'idée, c'est que vous ayez le moins d'ordre possible à passer,
voilà.
Que ça vous fasse le moins de coups de sang possible. C'est-à-dire voilà. Que vous
n'ayez pas d'arrêt du cœur.
Pas d'arrêt du cœur, vous êtes tranquille, vous faites ce placement, vous y pensez une fois par mois quand ils feront rebalancer, et il faudra probablement dans l'Université de l'Épargne qu'on fasse une ou deux stations spéciales pour que les gens comprennent bien le rebalancement, parce que c'est tellement contre-intuitif que ça a du mal à rentrer. Ça fait partie de ces choses, c'est un peu comme l'histoire des taux d'intérêt. Quand on dit les taux d'intérêt montent ou les taux d'intérêt baissent, les gens disent « Ah bah si ça baisse, c'est une bonne nouvelle. » Parce que intrinsèquement, on se dit « Quand un prix est bas, c'est une bonne nouvelle. » Or, pas du tout, les taux d'intérêt, il faut qu'ils soient
hauts. Trop bas.
Voilà. Donc, il y a des choses qui sont contre-intuitives comme ça.
Pour vous montrer que c'est... Regardez le premier graphique à nouveau. Je vous dis, voyez...
Ah, tu reprends le problème ?
Je reprends mieux le problème. Juste pour expliquer la notion de rebalancement, vous voyez, vous vous dites, regardez, je mets à 100, et vous voyez qu'en 1996, ils sont tous les trois à nouveau à 100, mais ils sont écartés comme des fous. Et puis, bon, en 1996, et puis hop, en 2016, ils sont à nouveau à 100. Et hop, en 2021, ils sont tous les trois à nouveau à 100. Donc, si vous dites, bon, ils ont la même rentabilité sur le long terme, ces trois trucs. Donc, s'il y en a un qui est beaucoup monté par rapport aux deux autres, si je vends celui qui est beaucoup monté et que j'achète les deux autres, comme ils se retrouvent au même endroit d'ici 5 ans ou 10 ans, je vais gagner, puisque je vais vendre celui qui est trop haut et je vais acheter ceux qui sont trop bas. Et ainsi de suite. Donc, c'est d'une façon, le rebalancement ne marche que si les actifs ont sur le long terme la même rentabilité. C'est-à-dire que tu vois bien que le graphe en dessous, le S&P, il est à plat. Donc ça veut dire que si tu vends des actions, si tu vends ton or en 1980 pour acheter des actions, ben tu vas gagner. Ou si tu vends ton or de 1980 à 2000 régulièrement, tu vas te retrouver avec de plus en plus d'actions qui sont en train de se péter la gueule, mais tu t'en fous. Et donc c'est une façon d'identifier trois actifs, l'or, le pétrole et les actions, qui sur le long terme ont la même rentabilité, et tu vends ce qui est beaucoup monté, tu rachètes ce qui a beaucoup baissé, puisqu'ils auront la même rentabilité sur le long terme. Voilà, c'est assez simple quand on y réfléchit. Donc aujourd'hui, ce que fait le portefeuille idéal, c'est qu'il a donc 10 actions Europe française, et je n'ai fait aucun effort pour les sélectionner. Je vais juste dire, rien à voir avec l'État français. Donc si quelqu'un s'y connaît bien en analyse financière, parmi ceux qui nous écoutent, il doit en avoir un ou deux quand même, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre vos 10 actions. Ce que je cherche à capturer, c'est la rentabilité des entreprises bien gérées en France. Mmh. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec le taux de change, etc. Donc, on se retrouve avec LVMH,
Alors oui, des gens demandent pourquoi vous ne mettez pas Hermès. Charles ne met pas Hermès parce qu'il a déjà mis LVMH. Donc, l'idée, c'est de dire, j'en ai déjà pris un dans ce genre de secteur, luxe...
J'ai une pétrolière, j'ai le luxe, j'ai pas de pharmaceutique. J'ai une hôtelière, j'ai de quoi s'attraper une cuite quand tout va mal. Pernod Ricard.
Alors, Pernod Ricard, cette semaine, est tombé, mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on joue la globalité du portefeuille. Ouais. Vous devez pas penser les titres les uns. C'est-à-dire que tous vos titres ne doivent pas performer, on le sait très bien. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous devez rebalancer, il y en a un qui doit sortir, un qui doit monter. Bon. L'idée, c'est que l'ensemble du portefeuille, il y aura toujours un dernier de la classe.
Ouais, voilà. Mais celui qu'on aimera beaucoup, qu'on rachètera à ce moment-là. Ouais. Donc, l'idée de base, si vous voulez, c'est que vous vous dites, je suis le patron d'une holding. J'ai sélectionné 10 activités dans ma holding et elles ont toutes la même rentabilité sur le long terme. Donc, s'il y en a une qui se pète la gueule parce qu'elle est mal gérée en ce moment, ben, il va y avoir une OPA dessus ou j'en sais rien, elle reviendra à la moyenne des autres. Donc, vous faites exactement la même chose qu'entre l'or et le pétrole. S'il y en a un qui est très cher, l'autre qui est très bon marché, ben, vous achetez celui qui est bon marché, vous vendez celui qui est cher. Et donc, si vous faites ça, vous attrapez non pas la rentabilité de chaque affaire, mais la moyenne des entreprises bien gérées en France. Voilà. C'est ce que vous essayez de faire. Et si vous bâtissez, vous ferez même un peu mieux que la moyenne. Donc, voilà un peu. Ce portefeuille, donc, il est la moitié là-dedans. Il est à peu près 33% en obligations chinoises et 17% en or. Et donc, ce qu'on va faire cette semaine, c'est que je vais recalculer tout ça et je vais mettre les 33% d'obligations chinoises parce que quand même elles sont passées de 4 ou 5% de rendement quand je les ai recommandées à 2 ou 2,5%. Donc vous avez déjà eu, ça va être difficile de baisser en dessous de 2 pour les obligations. Je vais me mettre en yens qui est complètement sous-évalué et ça va faire baisser la volatilité de mon portefeuille pour une raison assez simple, c'est que c'est du cash. Donc, il y aura peut-être la volatilité du change, mais il a des bas très bas que j'espère que ce sera une volatilité à la hausse.
Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens, quand tu dis, parce que on n'a pas encore, et ça, on va le faire encore une fois dans l'université de l'épargne, que vous attendez de pied ferme et qui arrive mi-mai, quand tu dis j'achète du yen, on achète une position sur le marché. On ne vous dit pas d'aller.
Acheter des billets.
Parce qu'il y a des gens qui ont demandé, est-ce qu'il faut que j'aille acheter du yen et le mettre dans mon matelas?
Non. Vous avez disponible sur tous les ETF. Un ETF cash en yens. Et donc, ce que fera l'ETF, c'est que vous lui enverrez des euros et hop, il ira acheter des yens sans prendre de couverture de change. Et donc, c'est-à-dire que vous aurez des yens qui sont investis en bons du trésor japonais, tranquillement, et vous dormirez dessus. Mais ce sera comme si vous aviez acheté des dollars dans votre compte.
C'est à vous.
En plus, c'est à vous, c'est à titre à vous. Si jamais le gouvernement veut essayer de vous piquer votre épargne, on va en parler dans 5 minutes, mais on verra ça. Donc, l'idée, ça devrait m'amener, comme je pense, mais j'ai peut-être tort, bien entendu, parce que personne ne connaît l'avenir, mais c'est comme je pense qu'on risque de rentrer maintenant dans une période difficile dans les marchés financiers, avoir une grosse partie de notre portefeuille en cash.
Période difficile tout court.
Avoir une grosse position en cash dans une monnaie qui n'a rien à voir avec l'Europe et qui est incroyablement sous-évaluée, ça devrait vous permettre d'attendre, quoi. Je veux dire, là, en faisant ça, je rends le portefeuille plus défensif. Donc, je renforce le côté défensif. Et comme je me dis qu'un de ces quatre, les banques centrales vont s'énerver contre l'or, j'ose pas en racheter en ce moment, puisqu'il est beaucoup monté, parce que s'il rebaissait un peu, ben à ce moment-là, automatiquement, avec le système, on sortira du yen et on achètera de l'or. Tu vois, ça se fera automatiquement. Je n'aurai pas à prendre une décision. Donc, pour la première fois depuis 4 ans, on procède à un changement dans le portefeuille pour le rendre moins volatile, parce qu'on rentre sans doute dans une période un peu plus agitée. Voilà. Ça, c'était donc la première partie, le portefeuille.
Oui. Alors, sur la deuxième partie, en réalité, on est un peu agacé en ce moment parce que beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnel de gauche, mais ça on a l'habitude, reviennent avec cet homme de paille qu'est l'État stratège. Alors, évidemment, en tant que libéraux, l'État stratège,
on
pour nous,
beaucoup.
Ça nous fait bien rire. Mais
Avant que tu continues, l'État stratège, on est en plein dedans. Parce que tout ce qui est écologie, c'est rien d'autre que l'État stratège.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on nous explique que vous devez mettre votre épargne dans des moulins à vent et des miroirs magiques. Or, on sait que ça ne marche pas. On en a parlé ici avec notre ami
Furfari
et avec bien d'autres. Donc, l'état stratège, c'est prendre la lubie des hommes politiques en ce moment, au moment où on parle, et l'état stratège va investir dans la lubie de l'homme politique qui a 33 ans. Qui a jamais rien fait, qui sait rien.
C'est assez vrai ce que tu dis, et d'ailleurs, c'est vrai pour autre chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens du camp d'en face, qui parlent d'état stratège, nous disent « Oui, mais vous, avec votre libéralisme, vous essayez d'imposer votre déontologie, vous essayez d'imposer... » Alors que, bien au contraire, c'est, le libéralisme est né d'un pragmatisme, bien avant sûr. Toute chose. Moi, quand on me dit « Oui, vous essayez d'imposer votre façon de voir, votre idéologie », je dis « Mais il n'y a pas moins idéologue que moi.
Bon, » Je n'ai dis, c'est aucune chacun qui va
idéologie.
Déterminer. C'est
mon idéologie, c'est de dire à chacun sa chacune, à chaque pot son couvercle, et les solutions qu'on peut apporter, c'est parce qu'on sait qu'elles fonctionnent. Donc excusez-nous de vouloir faire...
Mais il n'y a pas de solution, c'est les gens qui décideront par eux-mêmes avec leur argent, qui préfèrent avoir des voitures.
Mais quand tu dis
des
solutions, si, tu sais très bien que par exemple, les taux d'intérêt, il faut qu'ils soient réels. Ouais, tu sais très bien que le taux de change, il doit être,
il doit pas être
manipulé. Donc voilà. Ça, quand on vous dit oui, vos idéologies, ça n'est pas une idéologie, c'est un pragmatisme.
Exactement. Mais si tu es un homme d'affaires et que tu prends des décisions en fonction des prix. Par exemple, moi, mon métier, c'est de regarder ce qui se passe dans les marchés financiers et de voir comment investir l'argent des gens qui me font confiance. Bon. Mais si les taux d'intérêt sont faux, si les taux de change sont faux.
Tu peux plus naviguer. T'as plus aucun prix.
Alors j'achète de l'or.
Bah oui.
Tu
joues avec tes pieds. Mais tu te dis, je me retire de ce combat idiot puisque je n'ai pas de règles. À partir du moment où tu dis, bon, bah, les gars, on va construire un mur avec des écuelles et une fourchette, tu dis, écoutez, moi, ça m'amuse assez peu, donc ça ne reste rien, je vais aller sur le banc et je vais jouer avec mes enfants. Tu te dis, moi, je ne peux pas jouer avec vos règles.
Leur règle, c'est que c'est eux qui imposent des règles, voilà, qui n'ont rien à
et
voir.
Et là, avec Furfari, j'avais en commentaire quelqu'un qui me disait, oui, mais c'est horrible, vous voyez, vous jugez tout par le capitalisme. Mais bien évidemment, on cherche à faire des trucs qui fonctionnent. Donc, excusez-nous de ne pas vouloir mettre des miroirs magiques et des trucs qui tournent. Parce que le but de la journée, si on se lève le matin, c'est de faire des trucs qui fonctionnent.
Le seul truc qui a jamais permis une hausse du niveau de vie, une baisse de la mortalité, etc., etc., le plus extraordinaire dans l'histoire qui soit jamais produit, bah, ça a été le capitalisme, les gars. Ça n'a pas été le socialisme.
Ce qu'on cherche à faire, c'est que... À la différence des communistes et des rouges, ce n'est pas la captation des revenus pour le redistribuer via l'État qui s'en prend une bonne marge, on le distribue en bas. On cherche à faire croître l'ensemble du système. Parce que contrairement à ce qu'on vous a expliqué, l'économie n'est pas un gâteau fixe, c'est un gâteau qui croît. Et il y a une telle croissance. Donc l'idée, plutôt que de se dire, voilà, on a simplement ça, une plaquette de beurre de 250 grammes, on se dit, écoutez, plutôt que de reprendre sur le dessus de la plaquette de beurre pour le remettre en dessous, vous aurez toujours que 250 grammes, quelle que soit la façon, plus l'État qui en a fait fondre au milieu. On dit, on va essayer de créer des plaquettes de 500 grammes. Ce sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde et on fera en sorte que tout le monde en ait dans la répartition. Voilà. Et ça ne fonctionne plus. Et on entend des partis aujourd'hui comme le Front National et ça nous fait mal au cœur parce que on n'a rien contre eux. Mais j'ai entendu dans des conférences de rédaction certains dire, oui, il n'y a aucun problème, on ferait de l'impression monétaire. Mais je tombe de ma chaise. Ces gens-là n'ont-ils donc rien appris ?
Rien appris. Ils n'ont rien appris. Et on va faire de l'impression monétaire. Et on va capturer l'épargne des Français parce qu'on saura mieux que les Français ce qu'il faut en faire.
Encore une fois, on saura mieux le faire que... Mais tu te dis d'abord, d'où parles-tu, camarade ? Tu as 33 ans.
Non, mais c'est pas... Mais même que tu aies 33 ans ou comme Mélenchon, que tu en aies 70 ou 80, c'est simplement idiot. Alors, c'est ça qui me terrifie, c'est que... On voit monter en France... toutes les idées à la con qui n'ont pas marché et on nous présente les 10 ou 15 dernières années comme des exemples de libéralisme. Mais c'était pas... Si vous n'avez pas de taux d'intérêt, si vous n'avez pas de taux de change...
De toute façon, à partir du moment où on était dans l'Europe, il ne pouvait pas y avoir de libéralisme puisqu'on était pieds et poings liés à l'Europe. Donc déjà, depuis 2000, arrêtez de me parler de libéralisme. On est dans l'euro, il n'y a plus aucune souveraineté.
On est en technocratie, il y a tout. Donc,
on est dans la plutocratie, la plus plutocrate des plutocrates. C'est tout.
Une plutocratie technocratique, une espèce d'alliance entre les types qui ont fait d'immenses fortunes, et les gars qui sont au pouvoir pour permettre à ceux qui ont une immense fortune de ne pas avoir de concurrence, Et ceux qui sont au pouvoir, de ne pas avoir de concurrence hier, en empêchant les autres de parler.
Hier, j'avais Glucksmann qui disait « Valérie Ayer est une libérale de droite, je ne sais pas quoi ». Je lui dis « Mais Valérie Ayer, pardon ».
Mais ce bon Glucksmann, il était le mari, si mes souvenirs sont exacts, il faudra que je vérifie, mais je crois que c'est vrai, il était le mari d'une géorgienne qui était plus ou moins très proche du président des Géorgiens. Il était tellement corrompu que le président, maintenant il était en tôle en Géorgie, et lui il a dû séparer de cette personne pour être donc,
et il n'a rien vu tout le temps,
il a vécu grassement dans l'environnement d'un énorme corrompu, et il vient
dans la soie.
Dans la soie, il pétait dans la soie, oui. Et donc maintenant, il vient nous expliquer comment.
Que le capitalisme, c'est mal, que les richesses de ce monde.
J'aimerais bien voir le compte de M. Glucksmann, si c'était possible, pendant qu'il était en Géorgie.
C'est pas possible, parce que maintenant, il sort avec une journaliste du service public, et on sait bien qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt, et qu'il n'est donc pas utile pour la dite journaliste publique non plus de démissionner de sa poste le temps des élections.
Ou d'aller faire des émissions d'insémillons sur ce qui s'est passé en Géorgie quand il y était, qu'il était influent.
Oui, donc, ou de passer à des émissions. Je sais pas, sur le bien-être, le temps de la campagne.
Ça me rappelle comme Fabius, quand il était Premier ministre, quand Mitterrand a mis l'impôt sur la fortune, il l'a mis sur toute la fortune, sauf les œuvres d'art, parce que le papa de Fabius était le plus grand
collectionneur,
c'était un antiquaire, le plus gros collectionneur de Paris à l'époque. Bon, donc, si vous voulez, on sent bien que ces gens-là, ils sont contre le capitalisme, mais ils sont pas contre l'enrichissement personnel, quoi. Donc, sans prendre de risques.
Oui, bien sûr.
Sans prendre de risques, si vous voulez. Épargnez-nous vos... Bon, alors, peut-être ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est reprendre le travail qu'on avait fait, on a beaucoup parlé, vous savez, de comment réussir sa désindustrialisation, ce qui était un gros clin d'œil, mais enfin, ça ne veut rien. Et on va réfléchir à la façon dont la Suède, qui était dans une position tout à fait similaire à celle dans laquelle est la France aujourd'hui, en 1992, donc ça doit faire 30 ans. Et on va voir ce que les Suédois ont fait. Ben, les Suédois, ils ont réfléchi, ils se sont dit, dans le fond, on était en train de crever par excès d'intervention étatique. Ils étaient dans le SME, qui était un ancêtre. Ils étaient obligés de mettre les taux d'intérêt à 17%, les poids de l'État, c'était monstrueux, leur dette était en train de devenir incontrôlable. Bref, c'est une situation aujourd'hui. Quoi. Qu'est-ce qu'ont fait les Suédois? Ben, ils ont fait l'analyse que dans le fond, ils étaient en train de crever parce que l'État faisait des tas de choses qu'il ne devait pas faire et ne faisait pas ce qu'il devait faire. Ce qui me paraissait assez juste. Et donc, ils n'ont pas fait un État stratège parce que j'ai vu qu'il y avait des gamins qui proposaient maintenant en France de faire un fonds souverain.
Ah oui, c'était Bardella.
Voilà, c'est bien dommage. Bon, un fonds souverain. Et donc... En principe, celui qui fait un fonds souverain, commençons avec le début, c'est qu'il a un excédent d'épargne. Et que
ils sont tous très excités de faire un fonds souverain ou d'aller chercher l'épargne des Français. Ça a été le grand truc de ces Européennes.
Voilà. Mais alors, donc, on va commencer. Donc, on va faire un fonds souverain, mais il faut qu'on ait une épargne excédentaire. Aujourd'hui, on a un déficit de nos comptes courants et un déficit de... notre budget, qui sont colossaux. Donc, comment vont-ils financer ce fonds souverain? Bon, bonne question, je sais pas. Mais et ensuite, qu'est-ce qui leur donne la moindre crédibilité en disant que Bardella, qui est un garçon charmant, qui est très doué dans les débats, et qui porte bien sur lui, qui est propre, et qui est plutôt joli garçon, qu'est-ce qu'il connaît, par exemple, le cycle énergétique à 35 ou 50 ans? Il connaît rien.
Et c'est pas grave, c'est normal.
C'est normal. Moi, je connaissais rien à 27 ans non plus. Hein. J'avais même pas commencé à bosser, alors. Hein. Donc, qu'est-ce qui lui permet de penser que son idée ou celle de son parti seront meilleures que celles de millions de Français si on leur laissait la libre disposition de leur épargne? Il n'y a pas d'exemple d'une société gouvernée par une technocratie qui ait fait mieux qu'une société gouvernée par un marché. Quoi. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Suédois? Ben, ils ont dit, vous savez quoi? L'État bouffe trop de l'épargne, en faisant n'importe quoi, donc on va essayer de faire monter de l'épargne sous contrôle privé. Ce qui n'était pas plus con. Et donc il y a l'autre qui ronfle là, ça fait plaisir à voir, il est d'accord avec ce que je dis. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais d'abord, ils ont fait...
Pardon de te couper, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'épargne en France aujourd'hui?
Il y a une assez grosse épargne, mais ce que les gens ne voient pas, ils pensent l'épargne, ces gars-là, parce qu'ils ne sont quand même pas très au courant, ils connaissent pas la comptabilité en partie double. L'épargne qui existe en France aujourd'hui, elle est déjà investie dans quelque chose.
Bah oui, parce que effectivement,
c'est pas
Picsou
d'un champ dans son tas d'or.
Mais bien sûr que non. L'épargne que tu donnes, que tu laisses sur ton compte en banque ou que tu mets dans tes PEA et dans tes conduits, elle est déjà par définition investie.
Elle est investie quelque part.
Alors, quand on parlait de l'Inde, par exemple, on disait il y a quelque part une épargne cachée parce qu'il y a beaucoup de bijoux en or et ainsi de suite. Mais on n'est pas du tout dans ce cas-là en France.
Non.
Et beaucoup de gens, à côté de ça, on connaît les salaires, vivent à crédit.
Oui.
Donc l'épargne aujourd'hui qui peut exister, elle est
elle est chez certains retraités, mais les retraités, ils auront, je crois qu'il y a 1800 milliards d'euros qui sont investis en obligations d'État.
Mmh.
Bon, très bien. Donc regardez, on pourrait prendre ça. Mais attends, si tu prends ça...
L'État, il se finance comment?
Il se finance comment? Parce qu'il est déjà investi, cette épargne. Elle est déjà investie.
Par ailleurs, beaucoup de ménages, de jeunes ménages, sont terriblement endettés pour l'achat de l'immobilier qui, aujourd'hui, dans la part de consommation du ménage, est beaucoup plus grand qu'autrefois.
Voilà. Alors, il y a la dette pour l'immobilier qu'il faut, en principe. Mais c'est très difficile de savoir quelle est la position nette. Mais ce que je sais, c'est que la position nette, probablement des gens de 20 ans à 40 ans, en France, est probablement négative.
Mm. Oui, je pense aussi.
Alors,
je pense qu'il n'y a pas d'épargne à solliciter, sauf chez les
60-70 ans.
Les boomers, pour revenir à nos...
Donc, ce qu'ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont dit, bon, on va foutre la paix aux gens, on va réformer, par exemple, le système des assurances, des retraites.
Mm-hmm.
Ils avaient un énorme fonds de retraite qui s'appelait AP Fonden, dans lequel ils mettaient tout, mais qui, dans le fond, le rôle de ce AP Fonden, c'était d'acheter la dette de l'État et de la mettre en garantie des...
Bah ça fonctionne quand ta dette est bien rémunérée, encore une fois.
Ça a été le cas, c'est-à-dire, mais enfin, c'est pas... Ils ont cassé ça en 6 ou 7 AP Fonden différents, chacun avec des profils de risque différents, et ils ont dit aux Suédois, maintenant, vous achetez celui que vous voulez.
D'accord.
Plus d'obligations, plus d'actions, etc. Chacun a plus.
Donc vous avez des plus défensifs et
des plus
agressifs.
Offensifs, et vous mettez
voilà.
Et tous ceux qui ne voulaient pas choisir, l'État en faisait un qui était une espèce de truc, mais qui était capitalisé.
D'accord.
Donc ils sont sortis de la retraite par répartition, ils sont allés vers la retraite par
capitalisation.
Et ça marche très bien, merci. Et donc la bourse de Stockholm, on va la voir, elle est passée au travers du toit. Et regardez, par exemple, donc en 1990, le premier graphique, c'est Suède et France, indice de la production industrielle basse 100 en 1989, c'est-à-dire à peu près quand la France décide de rentrer dans ce qu'allait être l'euro et que la Suède sort du... Donc vous voyez que de 1970 à 1990 ou 92, la production industrielle est exactement la même entre la France.
Mmh. Bon. Mmh.
La Suède décide de reprendre sa liberté de ses conneries monétaires et de cesser de subventionner l'État et de... Bon, ben vous voyez que la production industrielle suédoise passe de 100 à 169. Alors que la France, ben on est en l'espace donc de... Ça fait 1990, ça fait donc 10, 30, ça fait 34 ans. On est monté de 7% en 34 ans. On est les meilleurs du monde.
Mmh.
Alors, c'est-à-dire qu'on est au même niveau de production industrielle qu'en 1996.
Ouais.
C'est quand même nul, quoi. C'est quand même incroyable. On n'a eu aucune croissance de la production industrielle depuis 1996. Mais rien. Alors que la Suède, elle est passée au travers du toit. Bon, donc la Suède, ils ont fait quelque chose qui marche. Et alors, qu'est-ce que cherchent à faire les Suédois ? C'est à faire monter la rentabilité des affaires suédoises. C'est-à-dire que je suis donc France et Suède, poids de l'État. Et donc, pour faire monter la rentabilité des affaires, il faut que le poids de l'État baisse. Parce que c'est le coût de fonctionnement de l'État qui obère la rentabilité des entreprises. Donc, vous voyez que nous, notre coût de l'État, on était à 51% en 95, et on est maintenant à 56%, et on est plus proche de 62. Et la Suède, ils sont passés de 58 à 47. Donc, et du coup, leur dette baisse alors que notre dette monte. C'est-à-dire que maintenant, ça fait bientôt 10 ans que les Suédois ont des excédents budgétaires. Parce qu'ils ont fait baisser la pression de l'État. Donc, je lis tout le temps dans les journaux une phrase qui me fait rigoler. Le déficit budgétaire a augmenté malgré la hausse des impôts. Et j'ai envie de leur dire, mais arrêtez vos conneries. C'est à cause de la hausse des impôts que le déficit budgétaire a augmenté, parce que la rentabilité du capital baisse. Donc automatiquement,
c'est ce que tu avais appelé, je crois, dans ton deuxième livre, le ratio du secteur communiste.
Oui.
C'est-à-dire plus le ratio du secteur communiste...
Plus le secteur communiste monte,
Plus le secteur capitaliste baisse.
Donc
plus vous augmentez les impôts, plus votre secteur capitaliste. C'est vraiment des sortes de.
C'est
enfantin. C'est vraiment enfantin.
C'est vraiment des communicants. C'est le problème de la baignoire.
À quelle heure va-t-il arriver à Poitiers?
Le train aussi, voilà, c'est ça. Le train, oui, c'est le problème du train et de la baignoire qui me donnait des soucis quand j'avais...
Ah, c'était horrible.
Mais je crois
tu ne comprenais jamais, il fallait faire des fractions.
En plus, je crois qu'on le demanderait maintenant à un étudiant
en mathématiques
de première année de licence, il aurait du mal. Hein,
alors qu'autrefois,
le gamin de 12 ans, il le faisait au certificat d'études. Hein, le train qui part de Poitiers,
quand il croise
le train qui part de Paris une heure après.
Quand on était à Saint-Étienne, tu m'as dit j'ai rêvé que je repassais mon bac, mais je suis sûre, et je te le redis, que si tu devais repasser ton bac de mathématiques, il n'y a que des fonctions, et des fonctions à développer, et des dérivées premières, mais, enfin, tu sais, l'abscisse ordonnée, mais je suis sûre que tu l'as. Je suis sûre que tu l'as, au moins, avec tes connaissances d'aujourd'hui, alors que tu n'as pas fait de maths appliquées depuis...
Depuis un petit moment.
Et moi, je repasse mon bac de français demain, hein, je suis persuadée d'avoir
17. Moi, le bac de français, tout ce qui est histoire, français, philosophie et tout, je crois que je passerai. Les mathématiques...
Sans rire, les mathématiques, tu ne te rends pas compte comme tu le fais finger in the nose.
Ben, j'espère.
Moi, écoute, j'ai fait le programme... Par exemple, le programme d'Attendia, quand ma fille est née, l'a passé, il fallait recouvrir une chaise avec le tissu et il fallait compter combien de morceaux de tissu tu allais avoir besoin pour faire l'accoudoir et le...
Ah oui, c'est compliqué ça.
Honnêtement, c'était pas... ça c'était le programme de ES. Le programme de ES était un peu plus compliqué, c'était avec une fusée, il fallait calculer des trucs de fusée, c'était pas...
Bon, alors, donc, voyez, regardez le graphique qui était précédent, c'était simplement poids de l'État dans l'économie. Et regardez la marge brute des sociétés françaises, c'est-à-dire combien elles gagnent d'argent, et des suédoises. Donc, voyez que plus l'État français, premier graphique, monte, plus la rentabilité des sociétés baisse. C'est ce que disait ma fille, c'est-à-dire que c'est les vases communicants. Plus le secteur communiste monte, plus le secteur capitaliste se viande. Et la Suède, vous voyez que on fait baisser le secteur communiste avec beaucoup de son constance depuis 40 ans, eh bien le secteur capitaliste, il se développe avec beaucoup d'intérêt. Donc encore une fois, on revient à la même chose, c'est l'État est un mal nécessaire, mais il n'y a pas de raison de lui donner des capacités qu'il n'a pas. Il est incapable de créer de la valeur. Il peut créer les conditions qui permettent aux créateurs de valeur de créer de la valeur, mais lui, il n'en crée pas. C'est un individu stérile. C'est ce que me disait un de mes amis qui était à la Chambre des Lords en Angleterre. Il me disait le problème des Lords, il avait été nommé par Thatcher, je crois. Le problème des Lords, c'est qu'on est des mules. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre le fait qu'on soit Lord à nos héritiers. Tu vois, c'est une mule, et je suis stérile, disait-il.
C'est plutôt bien, parce qu'il était nommé du coup pour ses compétences, et Dieu sait que les compétences ne sont pas transférables.
Oui, ça c'est bien vrai. Ça.
Enfin, parfois si, elles se transfèrent, bien évidemment.
Bien évidemment.
J'en suis l'exemple.
C'est ce que je dis à ton frère tout le temps, d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, maintenant, regardons un petit peu la traduction en termes de marché financier de ces deux politiques. Bon, vous voyez que de 1998 à 2008, c'est-à-dire quand les gens ne se rendaient pas compte à quel point l'euro était une saloperie, les deux marchés boursiers ont exactement la même performance. Éclate la crise de l'euro en 2008, 2009, 2010, etc. Eh bien, depuis, vous avez le marché italien qui était bas 100 en 98, qui est à 61, donc il a perdu quand même pas mal de trucs.
Donc l'Italien, c'est les rouges. Hein.
C'est le rouge. Et puis le marché suédois, lui, il est passé de 50 à 141. Quoi.
Pourquoi tu as pris les Italiens d'un coup, là?
Parce que c'était... Nous, en France, on a le problème. On a les 10 sociétés dont je t'ai parlé qui n'ont rien à voir avec l'État français.
Ah oui, qui n'ont rien à voir et qui surperforment, quoi qu'il arrive.
Qui surperforment, justement, parce qu'elles ne sont pas en France.
Donc c'était pas une bonne unité de mesure.
Chez l'Italie, ils n'ont pas de société. Ils ont assez peu de sociétés. C'est vraiment le marché italien. Il est vraiment un marché domestique. Et alors, on montre celui-là, l'Italie et la Suède. Bon, et je voudrais vous montrer le dernier. C'est indice bancaire Suède et zone euro. Et alors là, vous voyez, c'est que les banques européennes n'ont quasiment pas gagné d'argent depuis 2000. Mmh. Et les banques suédoises, elles ont été multipliées par 9. Ce qui veut dire que, vous connaissez ma théorie, que vous avez les petits épargnants, les petites fourmis, là. Puis vous avez les entrepreneurs qui sont fous, qui sont prêts à prendre tous les risques, et vous avez le gars au milieu, qui est le système bancaire ou financier, dont le rôle est de mutualiser le risque pour garantir une bonne rentabilité à un petit épargnant. Et en mutualisant ce risque, ils peuvent transférer du capital au système capitaliste qui, lui, se développe. Donc, l'intermédiation du risque dans un système capitaliste est faite par le secteur financier. Et donc, par partir du principe que les banques sont, les financiers sont des ordures, c'est complètement con. On peut en discuter. Mais on voit très bien que l'intermédiation du système financier s'est faite très bien en Suède et a arrêté de se faire en Europe. Mmh. Et à partir du moment où il n'y a plus d'intermédiation, ben, les pauvres rentiers, là, ceux qui étaient au départ, ils en pleine prennent la tronche. Parce que ben, il n'y a plus personne pour leur donner un paratonnerre. Et maintenant, ce que veulent faire les gens qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est être sûr que le peu d'argent qui leur reste là, dans leur épargne, on va leur piquer pour faire des trucs qui plaisent à des gars qui soit on fait trop d'études, soit on n'en peut faire assez. Quoi. Et je suis complètement effrayé de cette espèce de... C'est ce que disait Bastia, il disait... Dans le fond, ce qui est étonnant dans toutes ces propositions de réformes plus farfelues les unes que les autres, hein, je parle comme il n'aurait pas parlé, mais ça montre à quel point ils n'ont pas confiance dans la liberté. Ils pensent que la liberté, ça ne marche pas, enfin la liberté individuelle, mmh. Et ils surestiment leur capacité.
On revient à ce qu'on disait à propos du RN. Encore une fois, ça n'est pas une critique stérile, si véritablement
on dit ça. Mais ça veut dire qu'ils vont échouer.
Ça veut dire qu'ils vont échouer. Donc, dans la mesure du possible... Alors, je fais vraiment une analyse assez sociologique de la chose. Je me dis, bon, le RN, aujourd'hui, a le vote beaucoup d'ouvriers qui sont passés de communistes à... Bon, il a le vote des CSP moins, plus ou moins. Et donc, s'ils veulent croître dans l'idée d'une présidentielle, il y a un moment où il va falloir aller solliciter, sans déchoir, mais le vote des CSP un peu plus. Et ça n'est pas, en tout cas, en proposant ce genre de programme économique, que ça va le faire.
Mais on peut dire ce qu'on veut, mais la Suède, elle n'était pas dans l'euro, elle avait sa monnaie qui a flotté librement. Ils n'ont pas intervenu dans l'économie. Ils ont fait que libérer, par exemple, l'école, bon, les retraites, les transports publics, etc., pour faire baisser la part du secteur communiste. Et ça a marché. Mais si maintenant le RN arrive au pouvoir avec « on ne sort pas de l'euro, on ne sort pas de l'Europe ».
Et on reste sur une idée de dette étatique effroyable, qui n'est pas, encore une fois, on l'a déjà expliqué, qui n'est pas, j'allais dire sustainable, mais oui,
qui n'est pas
portable, qui n'est pas soutenable,
soutenable.
Sur le long terme, ils vont échouer.
Parce qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes, les taux d'intérêt, quels qu'ils soient, même à zéro, seraient au-dessus du taux de croissance du revenu disponible. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une trappe à dette, sauf si on libère notre taux de change.
Donc, l'idée de dire l'État va venir en...
Mais
l'État n'a plus les moyens. Donc, arrêtez déjà de développer ce discours, parce que déjà, pragmatiquement, vous allez vous prendre le mur de la réalité. Donc, essayez de regarder autour de vous et reprendre les conditions de Pompidou. Mais on n'est pas à l'époque Pompidou, les petits cocos, réveillez-vous. Il n'y avait pas de dette.
Il n'y avait pas de dette, donc il pouvait faire
n'importe quoi.
Et on pouvait dévaluer. Et ce que ça fait Pompidou dès qu'il est arrivé d'ailleurs. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que donc, si le RN arrive en disant « on ne sort pas d'Europe, on ne sort pas de l'euro, on ne fait pas un audit des dépenses de l'État, on ne comprend pas, on ne sait pas... »
On demande à la BCE de relancer la planche à billets. Déjà, elle va te dire, point numéro un, « je fais ce que je veux, c'est moi qui décide quand je veux le faire.
Oui. »
Parce que les lenders allemands...
Et ensuite, ça ne marcherait pas.
Et en plus, ça ne marcherait pas. Et alors, si tu fais monter les taux d'intérêt, tu fais exploser ta dette. Donc déjà, la personne qui a dit...
Non, mais on ne peut plus.
Non, mais indépendamment de ça, Jean-Philippe Tanguy, quand il te dit « je fais marcher la planche à billets », il n'a pas regardé... Les intérêts de la dette, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et donc, s'il veut marcher la planche à billets, il pense que ça fera baisser le taux d'intérêt, mais ça fait baisser les taux d'intérêt pendant 6 mois, et ça les fait monter pendant 6 ans. Donc, ils n'ont aucune notion de la façon dont une économie fonctionne. Ils comprennent pas la comptabilité en partie double, c'est-à-dire que l'épargne abondante des Français est déjà investie quelque part. Donc, elle peut pas être investie deux fois.
Non.
La seule façon, c'est d'augmenter la quantité d'épargne. C'est-à-dire les profits des sociétés et les salaires des gens.
Et la seule façon, c'est de faire rentrer quelqu'un d'autre pour faire les discours économiques, parce que là, les petits gars, vous allez dans le mur.
Ben, ils vont droit dans le mur. C'est-à-dire que pour la... je dis, on m'a demandé pour qui il fallait voter, j'ai pas la moindre idée, mais je dis, je peux vous aider à savoir pour qui il ne faut pas voter. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, ben, je vais dire s'il continue ses imbécilités, je sais pas l'influence que j'ai, mais ça m'empêche pas de parler d'ailleurs, c'est que vous ne devez pas voter pour le RN, ce qui est quand même très con, quoi.
Ben oui, ben, s'ils disent des bêtises économiques, on peut
mais
pas...
Mais non, s'ils disent des choses qui sont fondamentalement contre fausse. La liberté, fausses et idiotes, je vais pas recommander de voter pour des gens qui pensent comme des clampins, qui sont bêtes. Mais qui bah ne donnent même pas la conscience que... de leur bêtise.
Bah, oui.
Et moi, quand je parle d'opéra, je ferme ma gueule. Je vois pas pourquoi ces gars-là qui sont nuls, qui n'ont jamais rien prouvé, pourquoi ils ouvrent leur gueule sur l'économie. Ils se croient obligés. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher les trucs les plus bêtes qui soient l'état stratège, la manipulation des taux d'intérêt, le retour au protectionnisme. Tout le monde gueule contre le libre-échange. Très bien, si ça vous fait plaisir, ça me gêne pas. C'est une connerie, mais ça me gêne pas. Mais si on enlève les importations d'énergie de la France, on est excédentaire. Donc si on devient protectionniste, il va y avoir des représailles. Et par exemple, ils vont plus acheter de vin de Bordeaux ou j'en sais rien, les
mais
Américains.
Mais c'est toujours comme ça que ça se passe.
Donc, si tu es en position excédentaire hors énergie, comme tu vas pas faire baisser ton énergie...
Mais tu te souviens, à l'époque, premier mandat de Trump, premier mandat de Macron, il y a Trump, et ils sont à l'Élysée, et alors Trump le raconte en disant Monsieur Macron told me I'm going to
raise taxes on the US multinational, voilà, oui, je vais augmenter les impôts sur les multinationales américaines. Et Trump l'a dit, non?
Non, si vous le faites, c'est pas difficile, je mets un impôt de 50% sur tous les produits importés. Ah, but non, you cannot do that, bah watch me, hein.
Et 2 heures après...
Finalement, on s'était mal compris.
S'était mal compris, voilà. Donc, les représailles, ça arrive tout de suite. Et notre économie, qui a peu de secteurs qui marchent, mais qui sont parfois dans l'exportation, ben, ces secteurs qui marchent et qui sont dans l'exportation, c'est les premiers que les gens qui feront des représailles vont frapper. Donc, on a quelques trucs qui marchent et on va se dépatouiller pour être sûr que c'est là où ça va nous taper. Donc, ces gars, c'est ce que disait Bastiat encore une fois, qui était il y a dans l'économie, dans les mesures économiques, il y a ce qui se voit et ce qui se voit pas. Par exemple, j'embauche des fonctionnaires. Youpi, le chômage baisse. Donc, je suis un grand homme, je suis un économiste, j'ai le prix Nobel d'économie. Mais attendez une seconde, le chômage baisse, mais les gars qui ont été embauchés, il faut les payer. Donc, il faut augmenter les impôts ou la dette, et c'est les autres qui vont douiller. Donc, leur pouvoir d'achat va baisser. Et donc, j'ai montré 10 fois que si tu embauchais un fonctionnaire, à partir d'un certain niveau qui est aux alentours de 30% de l'État, dépenses étatiques, si tu embauchais un fonctionnaire, tu crées 3 chômeurs. Et si tu foutais à la porte un fonctionnaire, tu crées 3 nouveaux emplois. Donc, il y a ce qui se voit, le fonctionnaire embauché, et ce qui ne se voit pas, les 3 gars qui vont plus au restaurant, ce qui fout en l'air les restaurants du quartier, et il y a plein de chômeurs en plus. Donc, encore une fois, on a l'impression que ces gars, dans leur tête, ils ont un pistolet à un coup. On va suivre une politique stratégique. Si vous vous plantez.
Alors, aussi, si autre, chose, aussi autre chose.
C'est la ligne Maginot,
c'est non, mais à propos des politiques stratégiques, c'est que, encore une fois, on revient. Alors, il y a 2 choses. C'est que, encore une fois, on n'est plus à la période de Pompidou, c'est-à-dire l'époque de construction d'après-guerre. On faisait des barrages, ainsi de suite. Et c'est les cycles d'Aftalion, donc t'as un premier cycle, t'as le second. Mais on n'est plus du tout dans cette période-là. On va pas faire des autoroutes parallèles à d'autres autoroutes pour faire une autoroute.
Qui
va nulle part et qui sert à rien. Il y a certes des dépenses de construction qu'on pourrait faire, mais encore une fois, l'État a-t-il les moyens? Est-ce qu'on ne devrait pas, dans un premier temps, essayer de...
Mais en plus, on ne peut pas, parce que c'est interdit par l'écologie, par exemple. C'est ce que dit ce charmant Isnard, à Cannes, il dit... Alors, on me dit, il faut faire des logements sociaux. Bon, très bien, on va faire des logements sociaux, parce qu'il faut avoir, je ne sais pas, 17% de logements sociaux dans les... Bon. Mais malheureusement... L'État a décidé que la quasi-totalité du
terrain était non constructible.
Donc
tu dois les mettre à 70 bornes.
Mais non, mais c'est plus à Cannes.
Ah, ben c'est plus à Cannes.
Tu ne respectes plus les. Donc tu fais à la fois un truc qui est interdit de construire et dire vous devez avoir 17% de logements sociaux. Et ben, les gens, ils sont. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas. Donc, on
n'imagine
pas.
C'est comme ça qu'ils ont foutu en l'air San Francisco. Hein.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas à quel point la croissance est tuée par.
Des mesures débiles.
Par des mesures contradictoires.
Contradictoires. Et qui peuvent être prises à l'origine, avec les meilleures intentions
mais
du monde.
Mais c'est toujours la meilleure. De leur faire, ils peuvent être bonnes intentions.
Voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire. On peut être dans l'idée croissance de l'État et l'État. Deuxième question. Alors, deuxième chose, qu'est-ce qui permet à l'État de penser un instant T mieux que le consommateur, ce dont on pourrait avoir besoin? Et ensuite, leur grande idée de se dire, qu'Adam Smith a prouvé dans La Richesse des Nations, et c'est les premières pages de son livre, de dire, voilà, quand on va faire des aiguilles, est-ce que chaque ouvrier doit faire une aiguille, et dans ces cas-là, l'entreprise va en faire 48 par jour, ou est-ce qu'il vaut mieux que ces ouvriers se spécialisent dans une tâche, et à la fin de la journée, on va pouvoir en faire 2800. Mmh. Parce qu'il y en a un qui va effiler, il y a l'autre qui va bobiner la tête, il y a l'autre qui va percer, et à la fin, on va faire des aiguilles de façon beaucoup plus large. Et nous, en France, aujourd'hui, la chose sur laquelle on peut avoir, sachant que l'énergie nous est chère, que le temps de travail est cher aussi, la seule chose sur laquelle on peut avoir une valeur ajoutée comparative à la Chine, c'est faire des choses comme baccarat, des choses comme ça, avec une très forte valeur ajoutée et avec un savoir-faire.
Mais c'est cela où on mettra des impôts dessus.
Oui, mais ça n'est pas, ça,
si on n'est pas...
Aujourd'hui,
on
ne peut pas se dire on va tout relancer en production du moindre petit
mais
bouton de culotte.
Comment veux-tu relancer une production industrielle si la marge est restée dans l'Europe? On pourrait... Mais à ce moment-là, si on sortait de l'Europe et si l'euro se pétait la gueule, si la France, le franc français se pétait la gueule à bon coup, les entreprises redeviendraient rentables. Mais aujourd'hui, les entreprises françaises opérant en France sont à peu près moitié moins rentables que les entreprises opérant en Suisse de l'autre côté de la frontière. Donc.
Et tu ne peux pas flécher non plus l'entreprise que tu vas déclarer comme étant rentable. Alors aujourd'hui, peut-être que dans leur tête, c'est se dire on va relancer Alstom ou ainsi de suite. Est-ce que c'est reprenable? Est-ce que je ne sais pas.
Mais d'abord.
Et si ça l'était, en tout cas, c'est sûrement pas avec les gros doigts de l'État.
Mais d'abord, si c'était rentable de reprendre Alstom, j'imagine qu'il y aurait des gens qui le reprendraient en France.
Mais est-ce que ça serait possible de le relancer en levant tout ce qu'ils ont fait, mais avec ce qu'ils ont fait sur l'uranium, les dettes qu'ils ont créées...
Mais ça, on ne sait pas. Mais là, donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est sortir l'État des endroits où il n'a rien à faire. Par exemple, une société comme Alstom a été vendue à la casse par M. Macron à General Electric, alors qu'il aurait...
Ah non, mais il y a un scandale d'État là-dessous, bien évidemment.
Il aurait peut-être été
Et là, on a vu Mme Levergeon parader ces derniers jours...
Et donc, il aurait été beaucoup plus intéressant, peut-être, de négocier avec des Italiens ou peut-être des Allemands pour essayer de monter une société qui serait entre les deux. Mais non, on a été choisir General Electric, parce que General Electric, c'est par là que passe toute la CIA. Donc, ça permet toutes les corruptions.
Hasard, je ne crois pas.
Hasard, je ne crois pas. Donc, et ça a été... Donc, il faut là aussi regarder ce que dit un homme que j'aime bien, qui pense, c'est Arnaud Montebourg. Lui, il dit des choses aujourd'hui qu'il aurait peut-être dû dire quand il était ministre.
Il l'a dit, hein. D'ailleurs, il est parti.
Donc, voilà un homme qui, lui, a vu la corruption dans l'État français se manifester à l'évidence. Et ensuite, il a été élevé des abeilles, puis il a fait de l'INSERAD, je crois, pour s'occuper. Mais voilà un homme que j'aimerais interroger un jour, parce que j'aimerais, avec lui, on aurait quelqu'un qui a eu les mains dans le cambouis.
Auditeur, si quelqu'un
le numéro de Montebourg.
Charles aimerait beaucoup déjeuner avec lui.
Avec lui, et peut-être l'interroger devant vous aussi, parce que ce serait intéressant. Parce que lui, c'était quelqu'un qui, aussi curieux que ça paraisse, à l'évidence, comprend... l'industrie, c'est-à-dire un petit peu comme le floc Prigent, c'est-à-dire que lui, il a été ministre de ça, et il comprend les contraintes, etc. Et il comprend à quel point l'État peut foutre en l'air l'industrie avec les meilleures intentions du monde. Et prenons l'industrie, on veut faire repartir l'industrie, mais faire repartir l'industrie, c'est complètement impossible avec les contraintes énergétiques que nous met Bruxelles. Donc c'est impossible. C'est l'histoire, si tu veux, des logements sociaux, et tu peux pas avoir de terrain, quoi, tu vois, c'est... Tu peux pas développer l'industrie sans augmenter ta consommation d'énergie. L'industrie, tu transformes de l'énergie en chaleur et en bidule. Mmh. Donc, dire on va développer l'industrie, on va réindustrialiser et dire on va faire baisser le CO2 de 25%, c'est complètement con. C'est comme de dire, on va avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, et les profits de nos sociétés ne vont pas baisser. Mais c'est idiot. Donc, ce qui m'étonne avec tous ces gars-là, c'est la façon dont ils maintiennent dans leur esprit deux idées complètement contraires.
Ou alors, il y en a une des deux dans laquelle ils ne croient pas et qui disent quand même parce qu'ils pensent que c'est ce que les gens veulent entendre. Mais dans ces cas-là, pour moi, on n'est plus dans un homme politique que je peux respecter s'il dit des choses qu'il sait fausses. Ah, si c'est pour élire à nouveau des gens qui savent qu'ils mentent...
Mais ce que j'essaie de dire à tous les gens qui vont voter RN, et dans le passé, il m'est arrivé de voter RN aussi... J'en ai pas honte d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que...
Honnêtement, tu votes tout contre Macron.
Je vote d'abord contre Macron,
si
mais
il est question de voter contre Macron,
faire
je
la même politique.
Macron.
Si c'est pour faire la même politique de Macron, rester dans l'Europe, rester dans la Cour européenne des droits de l'homme, rester avec l'euro, etc., ils vont échouer comme échouer tous les gars, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de voter pour le RN si ils ne s'y vont pas vers une rupture.
Oui, parce que l'idée, c'est pas de voter pour un parti, on s'en fout
c'est
des partis.
C'est d'aller vers la rupture.
L'idée, c'est d'aller vers la rupture et de sauver la France de l'infamie dans laquelle on l'a mise. Oui. Moi, personnellement, je ne vis pas pour un parti politique.
Moi non plus,
Mais essayez de faire... Les gars, vous êtes là pour un débat, c'est la France. Est-ce qu'on peut quand même le rappeler au bout d'un
le
moment
rappeler et comment la sortir du trou. Et ce qu'il y a de certain, c'est que la façon dont ils abordent ces problèmes... Eh bien, c'est grosso modo Chirac qui dit des tas de choses et puis qui fait exactement le contraire. Donc, ils seront forcés d'aller à Canossa tout de suite.
À quoi ?
Canossa.
Je connais pas.
Ah ben, tu sais, c'était...
Je sens que c'est une bataille romaine.
Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y avait un pape qui s'était engueulé avec l'empereur d'Allemagne. Et donc, l'empereur d'Allemagne voulait expliquer au pape que c'était lui le chef. Et le pape l'a excommunié, et un an après, devant l'effet de l'excommunication à l'époque, le pape a demandé à l'empereur d'Allemagne, qui s'est roulé à ses pieds pour s'excuser, c'était à Canossa que ça s'est passé.
Il y avait une histoire.
À Canossa, ça veut dire que tu bouffes ton chapeau, tu vois.
Ouais. mais il y avait une histoire de pape, qui avait filé une baffe aussi.
Ah, ça, c'était... Sous Philippe le Bel, où le pape a reçu une gifle du patron qui s'appelait, c'était pas Simon de Montfort, mais c'était un nom comme ça.
Voilà, il y a eu aussi Maillard partir
mais,
là.
Le pape est mort, et c'est à partir de là que les papes ont été en Avignon, mais ils n'étaient pas perçus comme très indépendants de la royauté, si tu veux ce que je veux dire, la royauté française. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la France...
Fille aînée de l'Église, oui.
C'était, et puis surtout, c'était, la population française était égale, et même plus, à la population de tous les pays d'Europe, y compris la Russie. Donc la France, c'était le monstre du Moyen-Âge, c'était les États-Unis du Moyen-Âge, c'était le pays qui était... Donc oui, c'était... Comment il s'appelait ? Oh là 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 là. Si je le connais, c'est celui qui était aussi dans le procès des Templiers.
Bon, je suis sûr que vous allez trouver, donc mettez-le en commentaire.
Voilà, le gars qui avait une claque au pape,
oui,
il est mort d'ailleurs 15 jours après le pape, tellement il était vexé. Mais enfin, ouais. Ça se fait pas de taper le pape, quoi.
Bah non, un petit peu pas. Déjà,
mais
moi,
c'était
la
preuve, c'était le début de la France qui était une puissance impérialiste et qui voulait pas que le pape intervienne dans les affaires françaises. Peut-être le pape après avoir... Il y a eu un moment où il a voulu devenir un peu puissance temporelle. Allez.
Oui, mais dans ces cas-là, tu fais comme tout le monde, tu l'empoisonnes. Enfin, ça se faisait
oui,
très bien.
Oui, mais c'était pas l'idée. C'était à l'époque.
Oui, peut-être qu'il voulait que ça se voit aussi.
Il voulait montrer que.
Que voilà.
Le roi de France, c'était. On rigolait pas avec le roi de France.
Voilà, mais écoutez, on aura fait le petit point historique du jour avec Canossa. Mais tu vois, ça.
Aller à Canossa, ça veut dire. Ben,
manger
avoir
son
dire
chapeau.
Quelque chose, se manger son. Ça veut dire, les gars, jamais je ne ferai ça. Et puis, 6 mois après, vous allez dire. Ben,
finalement, j'ai bien réfléchi.
C'est bon,
tu
voilà.
sais, c'est un peu moi dans l'éducation de mon chien. Tu sais, jamais tu ne monteras sur les canapés 2 jours après. Jamais tu ne viendras dans le lit 2 jours après. Alors, comme je dis toujours, j'ai très bien élevé mes enfants. Enfin, du moins, je le pense. Mais alors, celui-là, c'est un raté.
C'est
un raté de l'éducation.
Tu sais,
hein,
tu sais, les garçons, c'est pas pareil.
Non, les garçons, c'est pas noté pareil. On va dire
voilà,
ça.
Les garçons, c'est...
Pourtant, j'ai essayé de m'appliquer, mais catastrophe. Ce
enfin,
chien
j'ai été très sévère avec lui, mais.
Voilà. Bon, bah écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre des pouces, d'en parler autour de vous. On continue sinon nos efforts sur l'Université de l'Épargne qui devrait bientôt voir le jour, encore une fois, mi-mai. On affûte nos crayons et j'espère que vous cirez vos cartables, vos chaussures.
Vous sentez le papier neuf.
Non, mais c'est la colle égyptienne là qui sentait l'amande.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il peut pas trouver un nom plus ringard que l'Université de l'Épargne. Parce que l'épargne, c'est le truc que tout le monde méprise aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme sans disposition libre de l'épargne. Donc, on vous met un truc qui sent les années 1830.
À dessein.
À dessein. Parce que, comme le disait Guizot, enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Voilà. Et ben voilà, on peut pas s'enrichir par le travail à cause des impôts. Mais ça peut être arrangé dans les années qui viennent. Mais on va essayer de vous aider à ne pas vous enrichir par l'épargne gérée intelligemment. Ce qui veut dire pas par l'État.
Voilà. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt et on vous embrasse très fort.
Voilà, voilà.
Bye bye.